Bonjour tout le monde, bienvenue au Trio économique avec un PhD chauve en économie qui s'est expatrié aux États-Unis. Aujourd'hui, on parle d'inflation. Ça risque d'être vraiment, vraiment intéressant. Si vous voulez les explications un peu à la Mitch Garber, que l'inflation, c'est à cause de la guerre en Ukraine puis l'abri des chaînes d'approvisionnement, allez écouter RDI Économie. Et si vous voulez de quoi de plus intelligent, bien, écoutez le Trio économique. On démarre ça à l'instant. Allez. Frank, on n'a pas de vidéo pour le Trio économique.
Oh, je suis pas grave, je vais faire ça au montage. Mais t'as oublié, Yann, il y avait une autre version aussi, là. C'est la version du ministre Girard que c'est à cause d'Omicron.
Ah ouais, puis celle à Jack Metzing aussi, la greedflation. Ah,
non, mais... Ça, c'est vraiment ma préférée. Low blouse qui drive l'inflation. Ça, moi, honnêtement, c'est vraiment ma préférée. Parce que, tu sais, parce que les compagnies, il faut que tu comprennes une affaire. Quand ils se sont rencontrés ensemble, ils se sont dit, là, on attend juste le bon moment pour devenir avare. Fait que là, attendez tout le monde avant de jacker vos prix. Là. Attendez. Attends, il y a une crise qui s'en vient. Ah ouais, ben oui, il y a un virus quelque part. Tu vois, ça attend, puis un coup que c'est bien installé, là, maintenant, on drive.
Go
up,
for it.
Tous les prix, on augmente ça à l'épicerie. Puis,
naturellement, il n'y en a aucun d'entre eux qui décide de faire. De tricher sur l'entente de collusion.
Exact, c'est ça.
Il n'y a jamais de tricheur dans l'industrie. Ils cherchent tellement les profits, mais ils sont solidaires entre eux. C'est vraiment. C'est la théorie
marxiste. C'est pas conspirationniste en tout, hein, des théories de même, by the way.
Non, vraiment pas. En fait, sérieusement, j'enseigne tout le temps dans l'unité de collusion. Il y a un article que j'aime beaucoup de George Stigler sur la collusion, qui est un vieil article, mais il explique tout très, très bien. C'est quoi qui change le niveau de collusion que tu peux avoir? Le nombre de joueurs, c'est sûr, ça facilite la collusion, mais aussi la complexité du produit, le type de qualité du produit que tu as. Plus le produit est hétérogène, plus tu as de chances à tricher. Puis je m'excuse, mais le bien le plus hétérogène que je peux imaginer, c'est qu'est-ce que je consomme dans une épicerie. Je veux dire, regarde juste les différences entre les épiceries. Tu as des épiceries qui offrent aucun service, t'en as qui offrent une tonne de services. Donc là, tu as plein de variances dans les prix. Puis ça permet en faire en sorte que si, mettons, il y avait une entente collusoire entre Loblaws puis disons, je sais pas, Super C ou Maxi, ils ont tout à fait une manière de dire « Ah non, mais j'ai pas triché sur l'entente. » Mais oui, ils ont triché, mais l'autre peut pas, non seulement il peut pas faire vraiment de enforcement, il peut pas punir le tricheur, mais aussi le fait qu'il ne peut pas non plus le détecter. C'est vraiment la collusion, là, c'est généralement, si tu veux permettre la collusion, collusion, c'est des mesures gouvernementales. Plus souvent qu'autrement, le gouvernement favorise la collusion.
Avec un gun, c'est plus facile d'obliger quelqu'un à faire de quoi, là.
Mais des fois, ça peut être aussi subtil. Écoute, il y a un article que j'adore aussi, Focal Point for Collusion. Il y avait un article qui était connu 2003, dans American Economic Review, puis ce qu'il disait, c'était que quand les compagnies de cartes de crédit ont été forcées d'avoir certains plafonds pour...
Les taux d'intérêt, mettons.
Les taux d'intérêt qui étaient offerts, le résultat qu'il y a eu, c'est que toutes les firmes, maintenant, se servaient du plafond pour faire de la collusion, parce que ça devenait un point focal dans lequel ils pouvaient tous se concentrer dessus. Fait que, le gouvernement, en voulant... Là, tu vois que c'est pas délibérément de vouloir favoriser de la collusion, mais l'accident de la chose, c'est qu'en créant ça, t'as plus personne qui avait une incitation à tricher en baissant un petit peu, parce que là, tu te disais, ben, puisque tout le monde est à peu près à ce seuil minimum-là, ben, à ce seuil maximum-là, il n'y a plus vraiment d'intérêt à faire autre chose que le maximum.
Mais tu sais, des fois, on raisonne trop, Vincent, parce que tu sais, dans ce que Frank il dit, OK, ça, c'est l'argument de Jack Metzing, la greedflation. Mais ce qui est spectaculaire, c'est que pour avoir de la greedflation, Frank l'a bien expliqué, il faut qu'il y ait une collusion pour que tout le monde monte leur prix en même temps. Parce que sinon, s'il n'y a pas cette collusion-là, qu'est-ce qui arrive? Ben, si l'OBLA monte ses prix, Métro sont à côté, ils disent « Hey, ben cave, lui, de monter ses prix comme ça. Moi, je vais garder les miens là ou je vais les baisser un peu puis tout le monde va venir chez nous. » Puis même, je vais faire une publicité pour montrer qu'ils sont vraiment crosseurs à côté. Tu payes vraiment trop cher quand tu vas chez l'OBLA. C'est sûr à 100% que ça va arriver. Quand tu es un peu plus wise, ce que tu te rends compte, c'est qu'à la base, les firmes d'épicerie ont chacune la marque cheap, ou pas cheap, mais la marque bon prix, et la marque plus fancy. Quand tu vas dans un Loblaw Provigo versus quand tu vas au Maxi, c'est pas la même affaire. Quand tu vas dans un Super C versus le métro, c'est pas la même affaire. Ils ont toutes les gammes de services à offrir parce qu'ils se sont dit, il y a différents clients, on va leur offrir différentes gammes de produits dans nos épiceries. Fait que cette collusion-là, tu sais tout de suite qu'elle peut pas tenir, surtout au niveau de l'épicerie. Mais quand eux s'en vont dire publiquement que l'inflation est causée par leur greed, ils font même pas l'étape de dire que ce greed-là, la première chose qui est nécessaire pour que ce soit vrai, c'est cette collusion-là. Ils vont même pas là. Parce qu'ils savent que ce serait cassé en deux, cet argument-là. Fait que c'est juste des crosseurs.
Ben, ça, tu peux t'exposer à des poursuites aussi. Si tu accuses des compagnies d'affaires de la collusion et tu n'as pas de preuves, juste pour nourrir un narratif.
Ouais, tandis que si tu dis juste que les prix sont trop élevés, the rent is too damn high.
Tu sais, ils se fient sur l'idiotie de leurs électeurs pour dire des affaires de même.
Non.
Ça, en fait,
je pense qu'ils s'égalisent à ça.
Ouais.
Je veux dire,
non, mais en fait, c'est que.
Excuse-moi, arrêtons de prétendre que le politicien moyen. J'haïs tellement cette image-là du politicien moyen comme. Déjà, à un moment donné, je me souviens, c'était un de mes grands chums qui disait ça, puis je ne vais pas le nommer. Là. Vous savez c'est qui quand j'ai mon grand chum, là, mais il disait, hey, regarde comment on a des politiciens au Québec qui sont quand même, tu sais, des gens excessivement brillants. On a Philippe Couillard, on a des gens, tu sais, qui ont des carrières incroyables. Puis là, j'étais là. Ça ne veut pas dire... J'ai vu des gens avec des carrières incroyables, que leur intelligence est pas si profonde que ça.
OK, je comprends ce que tu essaies de dire. C'est le politicien, quand je dis il se fie sur l'idiotie de la populace pour dire des conneries de même, c'est que dans le fond, lui-même est un idiot à la base.
Je pense honnêtement que tu as un effet de sélection. En politique, ce qui est encouragé, c'est pas tant l'intelligence
non.
profonde ou analytique. Tu as vraiment beaucoup plus de valeur sur une sorte d'intelligence émotionnelle, relationnelle avec les gens, de comprendre aussi ouais, mais en fait, c'est des salesmen, mais à la différence que quand j'achète quelque chose d'un vendeur d'aspirateur qui vient à ma porte, je gagne quelque chose, c'est-à-dire je gagne un aspirateur. Quand je fais un échange avec un politicien, c'est beaucoup plus un jeu à somme nulle qu'autre chose. Fait qu'il y a quelqu'un quelque part qui se fait fourrer.
Il y a un pot de vaseline impliqué.
Oui, en général, c'est toi. C'est pas lui. Non, mais je pense que sans la personne, le politicien comme tel, lui, OK, c'est peut-être pas tout le temps la personne la plus dégourdie ou comme disait Manon Massé, c'est pas nécessairement le pogo le plus dégelé de la boîte.
Mais... C'est une experte, elle était capable de reconnaître les autres pogos.
Ben oui, ben c'est parce qu'elle en côtoie assez régulièrement dans sa
formation 124. Politique. On met 124 au quotidien. Oui,
c'est ça. mais je pense que
c'est pas généreux un matin.
Non, c'est ça, mais c'est pas grave. Je pense qu'il le mérite bien. Mais il faut quand même pas oublier que les politiciens, je veux dire, Jack Metzing, quand il écrit ça sur Twitter ou sur Facebook, là, c'est pas lui qui a inventé ça. Là.
C'est pas lui qui l'a écrit.
Ben non, il se fait fournir des petits cartons quand il parle, puis il dit, regarde, ça, c'était liner pour un matin, tu vas dire ça. Mais les gens qui préparent ces petits cartons-là, les faiseux d'images, les faiseux de discours, tout, je pense qu'eux savent assez bien que, bon, qu'est-ce qui fonctionne avec mon électorat? C'est-à-dire, faut que je trouve un bouc émissaire. Quel est le bouc émissaire parfait ou idéal si je m'adresse à un électorat de sensibilité de gauche? Ben, c'est les riches, les entreprises, le monde qui ont de l'argent, le 1%. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Il y a un problème qui touche les gens, ça les dérange. Ben, je vais trouver le bouc émissaire parfait. Puis là, ben, c'est les entreprises qui font trop d'argent. Parce que tu peux pas arriver en disant « Ouais, mais t'as peur, c'est peut-être à cause qu'on a inondé l'économie de deniers out of thin air. Ouais, non, là, ça marche pas parce que là, tu scrapes ton narratif qui, toi, va être, quand tu vas être au pouvoir, ça va être de faire pire encore que ce qu'eux ont fait. Donc là, je peux pas aller là, tu sais. »
Bon, fait que l'inflation, c'est pas le greed, c'est pas l'Ukraine. C'est pas le goulot d'étranglement des chaînes d'approvisionnement. Ça, c'est quand tu vas avoir l'intelligence.
En fait, pour faire une nuance qui aborde sur ce qu'on va dire, là, les chaînes d'approvisionnement, ça peut augmenter les prix, mais ce n'est pas nécessairement de l'inflation. Les gens doivent comprendre ça.
Ouais, ça, c'est le bout, je pense, qui est le plus compliqué à comprendre dans l'explication, parce que là, je me fais l'écho des commentaires qu'il y avait sur la clip qu'on avait mis. Là. tu avais un commentaire sur deux, si c'est pas plus, des gens qui n'étaient pas d'accord. Parce que t'en as que c'était genre thumbs up, blablabla, mais ça, j'en parle pas parce que c'est pas important dans le cadre de la discussion. C'était des trucs du genre, ben voyons, voir si l'augmentation du prix de l'essence n'a pas d'impact sur les autres prix. Puis là, t'es comme, ouais, mais c'est pas ça que Vincent dit.
Non, c'est pas ça, il y a plusieurs nuances dans mon propos.
Parce que les gens ont l'impression que quand on dit ça, que l'inflation n'est pas causée par la guerre en Ukraine ou par le confinement en Chine ou par je sais pas trop quoi, ils ont l'impression qu'on nie le fait que ces événements-là ont un impact sur les prix. Mais c'est exactement pas ça le point.
Là. Non, c'est qu'ils comprennent, c'est parce qu'il y a une distinction qu'ils comprennent pas. Fait que la quote qui est toujours utilisée, c'est celle de Milton Friedman. Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon in the sense that it can be produced only by a more rapid increase in the quantity of money than in output. L'idée derrière ça, c'est que si tu augmentes la quantité de biens en circulation, mais que tu ne changes pas la quantité de monnaie, les prix devraient baisser. Si tu réduis la quantité de biens en circulation, la quantité de biens produits, tu vas augmenter les prix si tu ne changes pas la monnaie. L'inflation ne considère pas l'effet des quantités produites sur les prix, elle considère uniquement l'effet de la quantité de monnaie sur les prix. C'est-à-dire, tu peux t'imaginer une équation dans ta tête où tu as la quantité de monnaie en circulation puis à quelle vitesse ça circule, qui est égale au niveau des prix multiplié par la quantité de biens qui sont échangés. Donc, tous les échanges dans l'économie, à tous les prix qui existent, doivent être égales à la quantité de monnaie en circulation est ajustée pour la vitesse à laquelle cette monnaie-là circule. Puis, l'inflation, ça fait référence uniquement au changement d'une variable relativement à l'autre côté de cette égalité-là. Quand tu changes la quantité de quelque chose produit, tu changes juste d'un côté de l'équation.
Puis les banques centrales ont difficilement un impact sur la quantité de monnaie, puis je m'explique. Puis ça, c'est l'autre chose que les gens ne comprennent pas, parce qu'au début de la crise, quand on baissait les taux d'intérêt dramatiquement, on mettait des facilités de crédit en place pour sauver des entreprises, ou encore on rachetait de la dette gouvernementale, tout ça, on injectait de l'argent dans le système. Par contre, ce que les gens oubliaient, c'est que si l'argent ne circule pas ou s'il n'y a pas de vélocité de la monnaie, cet impact-là, il n'est pas tout de suite. Parce que la création monétaire, ce n'est pas la banque centrale qui prend une nouvelle pièce d'or et qui la garoche dans l'économie. Ça, c'est une image. Mais ce n'est pas ça qui arrive. C'est qu'ils mettent en place des conditions qui vont faire en sorte que, généralement, les banques vont être prêtes à prêter plus d'argent parce que les gens, de leur côté, vont demander plus de prêts. Quand tu baisses les taux d'intérêt passent à 1% au lieu de 5%, ben les gens sont plus tentés de faire des emprunts, que ce soit pour de la consommation de base, de la consommation discrétionnaire ou de l'investissement. Parce que tu peux arriver et dire, « Crime, si tu me prêtes de l'argent à 1%, je vais t'en emprunter 100 000 ou 200 000 avec ma maison en garantie. »
Ben, Yann,
je vais mettre ça sur le marché français.
Avant de... qu'on montre un peu une image que les gens vont pouvoir comprendre les distinctions. Faut qu'on, pour ajouter à Yann, tu as plusieurs définitions de la masse de monnaie.
Oui.
Tu as M1, M2, M3. Ça, c'est ceux qui sont longtemps utilisés. Puis ce qui réfère M1, c'est... j'oublie tout le temps exactement.
Je pense que c'est le cash equivalent, ça. C'est les billets tangibles, les pièces de monnaie.
Les billets tangibles, c'est la base monétaire, en gros. Mais... au-delà de ça, c'est que chaque fois que je donne... mettons qu'on va y aller super simple, je produis littéralement 1$ de plus et je le donne à une banque. Bien, la banque, dans ses actifs, elle a 1$ de plus qu'elle possède. Mais elle, c'est son actif, elle peut le prêter à quelqu'un, puis elle va dire, écoute, on credit, je te donne 1$, puis la personne va redéposer, disons, 90 cents du dollar. Donc, le 90 cents devient aussi un actif de la banque. Et là, tu peux continuer de prêter. Tu as une multiplication de la monnaie.
Ouais.
Quand tu regardes ce qu'on appelle « broad money », donc toutes les choses qui circulent...
Juste donner un exemple concret de ce que tu viens de dire, OK? Vous avez un prêt hypothécaire de 1 million de dollars. Pour que la banque soit capable de vous octroyer ce prêt hypothécaire-là d'un million de dollars, elle doit avoir des réserves de son côté. C'est l'affaire, c'est qu'elle ne doit pas avoir 1 million de dollars dans ses coffres. Elle peut n'avoir que 100 000 $.
Oui, c'est ça. C'est la partie fractionnaire.
D'où est-ce qu'il vient, ce 100 000 $? Il vient de moi, par exemple. Moi, je suis un investisseur, puis je suis peut-être trop jeune, mettons que plus vieux, là, 75-80 ans. Je suis un investisseur qui est défensif, qui veut un produit garanti. Je vais acheter un CPG, un compte de placement garanti, par exemple. Je vais prendre 100 000 $, je vais le déposer à la banque. Il va avoir une date d'échéance, il va avoir un taux d'intérêt qui va m'être octroyé. La banque va me donner dans un contexte peut-être en 2020, la banque va me donner 1% de rendement annuel. Mon espérance, c'est d'essayer au moins de faire l'inflation. Souvent, c'est un petit peu en bas de l'inflation, le rendement que je vais avoir. Mais ils vont me donner 1%, puis moi, je suis content. Mais avec ce 100 000-là, la banque se retourne de bord, fait des hypothèques jusqu'à 1 million de dollars d'hypothèques et va récolter du 2% sur ce 1 million-là. Fait que c'est de même que les banques font leur profit. Ils récoltent 2% d'intérêt sur 1 million, mais en échange, ils ont payé leurs frais, leur staff, leur succursale, tout ça, et le 1% sur mon 100 000. Ça, c'est vraiment le mode de fonctionnement. Sauf que moi, si je ne le dépose pas, mon 100 000, elle ne peut pas prêter le million. Ça, c'est quelque chose qui est bien important. Fait que les taux d'intérêt... Ça se peut-tu
que ce soit 5 % J'essaie de trouver le chiffre.
Les taux de réserve?
Les taux de réserve.
Dans ces ordres-là, c'est 10 fois 10 ou
ouais, mais en même temps, c'est parce qu'il y a aussi d'autres choses qui circulent comme de la monnaie. En fait, n'importe quoi qui peut être utilisé pour un échange, là, c'est de la monnaie. Donc, tu as des indices qui s'appellent des indices Divisia, qui sont des manières qu'on essaie de mesurer toutes les choses qui circulent comme masse monétaire. Quand tu regardes ceux-là, quelque part entre 5 et 20% de tout ce qui circule comme monnaie, ce que l'État fournit directement. Le reste, c'est créé par les banques. Et là, la raison que les banques centrales n'ont pas, on dit qu'ils ont une grosse influence sur la masse monétaire, mais ils n'ont pas une influence exclusive. C'est parce que...
L'exemple de la pandémie est important, Vincent, parce que pendant la pandémie, l'économie ne roule pas. Les taux d'intérêt drop dramatiquement. Mais pensez-vous que les gens allaient prendre des nouveaux prêts à ce moment-là?
Ben écoute, j'ai un meilleur exemple que ça. Pendant la récession de 2008, là, je ne sais pas si je suis d'accord avec ça, mais là, celui-là, il est super clair. Même si je suis d'accord ou non, c'est une bonne illustration du principe derrière. Steve Hanke, qui est un économiste qui fait beaucoup du monétaire, lui, il montrait que pendant la grande récession, donc 2007, 2008, 2009, quand les banques centrales ont fait une expansion monétaire, ils ont vraiment augmenté la masse monétaire très rapidement. Mm-hmm. Mais en même temps, ce qui s'est passé, c'est que tu as eu énormément de réglementations qui ont été introduites sur le secteur bancaire,
exactement,
qui a réduit les activités du secteur bancaire. Donc, tu as augmenté la masse monétaire que l'État produit, mais tu as réduit le désir des banques de faire des investissements. Ouais, donc, tu as eu comme un effet où est-ce que la banque centrale a essayé de faire quelque chose et le législatif, en même temps, qui est une branche...
C'est le contraire.
Faisait quelque chose de contre-productif. Donc, je ne sais pas si cette hypothèse-là est vraie. Je sais qu'elle est débattue. Je n'ai pas suivi la conversation sur ça. Mais puisqu'ici, on veut juste illustrer le concept que la Banque centrale n'a pas une influence parfaite sur la masse de monnaie.
C'était le Dodd-Frank Act de mémoire qui était passé. Puis, c'était Dodd-Frank. Puis parmi ces législations-là, un des tests qui était fait, c'était des stress tests qui devaient être faits par les banques. Donc, en termes de capitaux qu'il y avait dans leur bilan financier, est-ce que le niveau d'endettement qu'il y avait offert à la population, est-ce qu'il était capable de soutenir ça avec les capitaux? Ils faisaient des stress tests. Et si la conclusion était que c'était insuffisant, les banques devaient lever du nouveau capital, donc devaient émettre des actions ou des choses comme ça, ou aller chercher plus de dépôts. Mais comment tu fais pour aller chercher plus de dépôts quand les taux d'intérêt sont déjà très bas? Fait que c'était ça la difficulté. Fait que la contrepartie à ça, ce qui était plus facile de faire probablement pour les banques, c'est qu'ils sont devenus plus picky sur à qui on prête de l'argent. Donc, si tu arrivais, tu sais, en 2006-2007, si tu arrivais, tu avais une femme de chambre, elle pouvait acheter une maison avec un salaire très faible et ne jamais payer le capital et le prêt passait à la banque. Ben, ouais. En 2011, il ne passait plus. Elle dit, non, t'arrivais avec un dossier de crédit comme celui-là, puis la banque disait, hey, sais-tu quoi, ça me tente pas de te prêter d'argent. Fait que la résultante était effectivement que la création monétaire qui vient de l'effet de levier entre les dépôts et les prêts qui sont faits par les banques, comme les banques étaient plus piquées, voulaient moins faire de prêts, bien, l'argent perdait une vélocité, veut pas, là. Il y avait moins de prêts qui se faisaient à ce moment-là.
Exactement, c'est un excellent résumé. Mais ça, là, l'idée ici, c'est que puis ça revient à ce qu'on essaye de dire. Quand vous parlez des changements des prix, il y a deux sources qui peuvent changer les prix. La quantité de monnaie en circulation, ça, c'est de l'inflation. Si tu regardes l'effet d'une réduction de l'offre, ici, la raison que je n'appelle pas ça de l'inflation, c'est que ça ne reflète pas le fait qu'il y a plus de monnaie, ça reflète le fait qu'il y a plus de rareté. C'est différent. C'est deux concepts différents parce que techniquement, dans le long terme, ça, c'est ce qu'on appelle la dichotomie classique. Les réels affectent les réels, les nominaux affectent les nominaux. Si j'augmente la quantité de monnaie, je n'ai pas rendu Frank plus productif, je n'ai pas rendu Yann plus productif. Il va y avoir une période d'ajustement, c'est pénible de s'ajuster, d'ajuster les prix, il y a un coût à ça, mais la productivité fondamentale de tout le monde demeure la même. Donc, tout ce qui devrait se passer dans le long terme, dans une économie où tous les prix, disons, sont 100% flexibles, disons, c'est que tout le monde va doubler les prix si on double la quantité de monnaie. C'est vraiment ça l'idée la plus simple, mais ça ne change pas la productivité fondamentale de l'économie. Tout ce qui se passe, c'est que les prix vont doubler. Si on réduit la productivité, les prix vont augmenter, mais pas parce qu'il y a plus de monnaie en circulation, parce qu'on est moins productif, parce qu'on est moins efficace. En économie, ces changements de prix-là, dans le premier, c'est le résultat direct. Dans le deuxième, c'est un symptôme. C'est deux affaires catégoriquement différentes l'un de l'autre. C'est pas la même nature, c'est pas la même cause, c'est pas les mêmes origines. Il y a une raison pourquoi j'insiste que l'inflation, c'est un truc purement monétaire. Le reste, j'appelle ça juste des changements de prix.
Donc, autrement dit,
c'est des phrases de même. Toi, d'habitude, il faut te couper si on veut parler.
Ouais, non, mais c'était une bonne fin, je trouve. Non, mais mettons. Est-ce que ce serait bien résumé de le dire comme ça, c'est que ton augmentation de la masse monétaire, elle doit s'accompagner de croissance. Sinon, ben, tu vas créer de l'inflation.
J'aimerais mieux qu'on isole les choses. Tu dis, toutes choses étant égales par ailleurs, si tu réduis la production, tu vas augmenter les prix. Si tu augmentes la masse de monaie puis tu ne changes rien d'autre, tu vas créer de l'inflation. C'est vraiment deux choses différentes. Si tu veux masquer l'inflation, right, que tu augmentes la masse monétaire, disons 2 % par année, tu imprimes 2 % plus d'argent, puis tu l'injectes, peu importe ce qui se passe dans l'économie, mais que l'économie a une croissance incroyable à 5, 6, 7, 8 % en termes de quantité de biens produits, là, pas la valeur, la valeur réelle de ce qui est produit. Si tu fais ça, puis que c'est une augmentation constante chaque année, bien, OK, tu ne verras pas autant d'inflation. Mais techniquement, tu as quand même de l'inflation qui est cachée. Dans ces cas-ci, souvent, George Shulgin, il appelle ça inflation.
Ce que tu viens de dire, juste le simplifier un peu, parce que c'était quand même complexe, mais vraiment important ce que tu as dit là. Admettons que tu ne touches absolument pas à masse monétaire. Donc, on vit dans l'étalon or, là, peu importe, là, le monde fantastique libertarien. Là. La seule source de monnaie supplémentaire, c'est les mines, là, la nouvelle heure que tu sors, puis ainsi de suite. Normalement, tes gains de productivité vont se traduire en déflation. Parce que tu vas être réellement dans tu vas être vraiment dans une position où est-ce qu'on est vraiment capable de produire plus efficacement les biens et services que la population aime. Il n'y a pas plus de monnaie. Donc, les gens, techniquement, sont capables d'en acheter plus, tout simplement. Donc, comme tu es capable d'acheter plus de biens avec la même quantité de monnaie, ben les prix baissent. Donc, tu te ramasses en déflation. Fait que ce que Vincent a dit, dans le fond, c'est de dire, quand tu as une période de gain de productivité importante, puis je pense qu'on est obligé de se rendre compte que de 2008 à 2020, c'était ce qui se passait. Il y avait des gains de productivité qui étaient quand même importants partout sur la planète. Même si tu augmentais les masses monétaires dans les pays occidentaux d'une manière démesurée, ça ne se traduisait pas en inflation. C'est ça qui a permis de créer un peu la zone de confort des banques centrales, de se dire, pendant la pandémie, on peut imprimer, de toute façon, il n'y aura pas d'inflation, comme dans les derniers 10 ans. On commençait à penser que la théorie économique était moins sharp ou on était dans un nouveau paradigme, qui est toujours fondamentalement une gaffe, généralement, là, dans la vie, là, de penser qu'on a changé de paradigme.
Ouais.
Mais ils ont eu un confort à imprimer beaucoup d'argent. Par contre, pensez-vous réellement que pendant la pandémie, puis même dans l'après-pandémie, pensez-vous réellement qu'aujourd'hui, on est en position qu'il y a des gains de productivité qui nous permettent de masquer l'inflation ou d'être une pression déflationniste présentement? Je veux dire, n'importe qui travaille en entreprise, c'est un peu que ça roule encore un peu tout croche à bien des endroits dans notre système économique. Fait que ce baume-là de gains de productivité, on ne l'a pas.
Ouais. Le seul moment que la déflation est vraiment problématique, là, ça, c'est les gens. La déflation, c'est quelque chose qu'on devrait encourager si c'est mené uniquement par la productivité. Si par contre, ce qui se passe, c'est que le secteur bancaire est en train de s'effondrer, mettons, puis toute la masse de monnaie privée s'effondre, là, ça, c'est vraiment de la mauvaise déflation. En fait, la question, c'est pense un peu de la manière suivante, là. Tu as l'offre de monnaie puis tu as la demande de monnaie. Si les banques s'effondrent, à toute fin pratique, tu es en train de réduire une partie de l'offre de monnaie. Mais là, tout le monde doit ajuster les prix auxquels ils demandent les biens et services. Mais s'il y a des coûts à ajuster, s'il y a des coûts, disons, à faire les ajustements, mais là, tu produis des choses comme la Grande Dépression, où puisque tu ne peux pas t'ajuster par les prix, tu t'ajustes par les quantités, puis tu mets du monde dehors, ouais. Tu licencies du monde. Ça, c'est de la mauvaise déflation, mais de la bonne déflation. Puis d'ailleurs, ça, c'est l'idée, là, c'est... J'aime pas, dans ce cas-ci, je suis en train de violer ma règle. C'est même pas de la bonne déflation, c'est un bon changement de prix. C'est un changement de prix que tu devrais vouloir dire. Si je devais même respecter mes propres propos, la déflation, dans la manière dont j'ai défini, qui est uniquement un truc monétaire, est toujours ouais. mauvaise. Mais si c'est juste un changement de prix qui est à la baisse parce que la productivité augmente, tu devrais pas jouer avec ça. Tu devrais pas empêcher le mécanisme de prix de fonctionner. Donc, les gens, là, puis la manière de le voir, je pense, Frank, prends le graphique que je t'ai envoyé, là. Ouais. Puis je pense que c'est la manière la plus simple parce qu'il y a une image, c'est suffisant pour
mais ça reste que bien du monde. Ça, ce propos-là que tu vois, que tu tiens présentement, c'était pas un propos qu'on retrouvait avec Milton Friedman, par contre. Parce que lui, de son côté, était beaucoup plus la légère inflation entre 1 et 3 % la raison pourquoi c'est acceptable dans notre économie, c'est ce qu'on devrait viser ou peu importe. C'est que ça favorise un peu l'investissement. Dans le sens que la déflation, c'est
Friedman,
un peu...
Friedman était d'accord. Je ne sais pas, c'est difficile de suivre parce qu'il a quand même eu une pensée qui a évolué au cours de sa vie. Mais dans son livre que j'aime le plus, qui s'appelle Money Mischief, qui est, je pense, son dernier, il en vient pas mal à défendre l'idée que c'est une bonne idée que le niveau des prix baisse si la productivité augmente, puis que tu ne devrais ouais. même pas essayer d'ajuster pour ça.
Ben, la fin de Friedman, il commence plus à ressembler à son fils et son petit-fils qu'au début ouais, de sa vie.
Friedman se radicalise au cours de sa vie. Graduellement, là, au fur et à mesure qu'il devient plus mature,
là,
il devient
juste,
plus radical.
Attention, on fait un warning. Radicaliser, ça ne veut pas dire qu'il était sur Internet et qu'il voulait aller avec ISIS. Non, mais c'est parce qu'il y a des gens qu'il faut tout dire. Radicaliser, ça veut dire radical, ça veut dire aller à la racine des choses.
Arrête d'être radical, Frank. Ouais, mais pour les gens qui veulent avoir du fun, là, cherchez le podcast parenthèse, là, cherchez le podcast Econ Talk. Cherchez le premier des premiers épisodes que Ross Robert a fait. C'est le podcast le plus connu en économie, OK? La première entrevue que Ross Robert, qui est le gars qui produit le podcast, fait, c'est avec Milton Friedman 2 à 3 mois avant qu'il meure. Donc, c'est la dernière entrevue à vie de Milton Friedman. Et donc, tu l'as à la fin, toutes ses réflexions sont déployées. Il y a 92 ans à ce moment-là, il est encore super sharp. Puis, il ne se gêne même pas. En fait, pour l'entrevue, ça a l'air... il envoie un Excel à Ross Robert, puis il dit « Ah non, regarde, même les données super basiques, sans que je fasse de régression, montre que j'ai raison. Vieux, c'est un des épisodes lequel tu pourrais apprendre beaucoup plus qu'en écoutant, c'est exactement celui-là.
Je l'ai ici, là. Les gens qui veulent le voir, c'est Econ Talk, je mettrai le lien dans la description, là, .org, et ça date du 28 août 2006, Milton Friedman on Money. Là, tu l'as, ça, c'est la version, là, ça, c'est la version Descope, là, dans le fond, mais sûrement que vous l'avez en RSS quelque part.
Ouais, oui, oui. Mais écoute, pour vrai, que la je l'ai réécouté déflationniste... en avant qu'on fasse ça. Avant qu'on fasse l'épisode aujourd'hui, j'ai pas la peine de l'écouter.
La période déflationniste du Japon, c'est pas quand même une source de croissance économique incroyable de leur côté. Là. On peut pas dire que ça a été bénéfique vraiment du côté des Japonais, là.
Ça, je connais pas assez le cas du Japon. Je te dirais que la première référence qui me vient en tête, c'est mon ami Ben Powell qui a écrit sur ça en 2006-2007. Mais le Japon a vraiment des conditions assez uniques de gain de productivité, quand même assez élevées, mais une baisse de la participation de la main-d'œuvre avec le vieillissement de la population.
Vieillissement, aucune immigration.
Il y a énormément de trucs à isoler pour le Japon, puis je ne suis pas assez expert pour me prononcer, mais dans la conversation, ce que je sais, c'est que... Là, c'est la seule chose que je sais sur le Japon, c'est que toutes les choses que j'ai entendues, ça revient tout le temps à ce que je dis maintenant, c'est définissons les termes clairement. Est-ce que c'est un phénomène monétaire? Donc, ça, c'est de l'inflation ou de la déflation. Ou est-ce que tu parles d'un truc du côté de l'offre, dans lequel cas, c'est un changement de prix? Vraiment, l'importance, la partie cruciale, c'est vraiment de distinguer de quel côté de l'économie le changement se produit. Est-ce que c'est un changement dans l'aspect monétaire de l'économie, donc l'aspect nominal, toutes les choses qu'on se sert pour l'échange? D'ailleurs, la manière de le dire, c'est que la moitié de tous les échanges que tu achètes, en réalité, c'est l'argent et les biens que cet argent-là t'achète. Donc, la qualité de ce que... comment tu perçois la qualité de la monnaie, la valeur de la monnaie, ça va avoir un effet sur les prix. Et ça, tu le distingues de l'économie réelle, donc toute la quantité de biens qui sont produits. Parce que dans l'économie réelle, j'haïs ça dire ça parce que ça, c'est un mot de gauchiste, l'économie réelle, comme si je disais que ce soit des bâtiments. Réel, ça veut dire « reals », dans le sens que quand j'achète un bien à l'épicerie, je considère les autres biens que je ne peux pas m'acheter si j'achète lui. Donc, ben oui. C'est-à-dire que tout est en coût réel en termes de quantité des autres choses que je dois sacrifier. Que si je décide d'aller acheter ma subscription Netflix, c'est parce que je ne vais pas être en train d'acheter un livre. Si j'achète le livre, c'est parce que je ne suis pas en train de consommer le Netflix. Le coût réel, le réel affecte le réel, la partie droite de l'équation, c'est différent du nominal affecte le nominal. C'est deux aspects que tu dois séparer. Puis quand oui, il y a des relations entre les deux, il ne faut pas se mentir. Il y a un effet, si tu augmentes la quantité de monnaie, l'ajustement n'est pas cheap. Il y a des coûts sur le réel. Le réel peut affecter des fois les nominaux d'une certaine manière. Mais au final, l'origine des changements, de quel côté tu le places, la chaîne de causation, c'est super important. Puis étrangement, même en tant qu'économiste, des fois, il y a des débats sur c'est où que ça a commencé, mais 90% du temps, les désagréments entre personnes en économie vont s'éliminer la minute qu'on est clair sur qu'est-ce qu'on parle exactement. Là, les gens vont être au moins capables de comprendre c'est quoi qui est en débat. Ils ne vont pas nécessairement être d'accord, mais tous les faux désagréments vont disparaître. Ils vont dire « Ouais, OK, toi, tu penses vraiment que c'est un choc sur l'offre qui fait augmenter les prix, puis toi, tu penses que c'est un choc sur la quantité de monnaie. » Puis là, ça devient un débat où est-ce qui a raison empiriquement, mais au final, les deux vont se comprendre que ils savent c'est quoi la chaîne de causation qui est avancée.
Mm-hmm. On en vient à ton graphique dont on parlait un peu plus tôt. Moi, j'aime ça parce que ils sont très simples.
C'est le plus simpliste que je peux faire.
Ouais, c'est ça. Là. Mais tu les as mis au propre quand même parce qu'il y avait une version préliminaire un peu de ton graphique qui était
Que j'ai écrit pendant une conférence parce qu'il y a quelqu'un qui trollait puis qui me trollait sur Twitter. Fait que j'ai juste dans mon cahier de notes de conférence parce que je suis très vieux jeu quand je fais des trucs. En fait, j'écris toujours dans des cahiers Canada. J'ai une trentaine de cahiers Canada qui sont mes notes de recherche, mes notes mathématiques, plein d'affaires de même. Puis là, j'en avais un, puis le gars, il me tapait ses nerfs. Je ne sais pas si c'était qui sur Twitter, mais il était en train de dire que l'Ukraine n'a pas eu d'effet. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit ça. Puis là, j'ai écrit dans mon cahier Canada, puis j'ai fait les deux graphiques qui sont là, en fait, à toute fin pratique. L'idée, c'est qu'il faut que tu distingues deux choses. OK? Le niveau des prix. Donc là, c'est-à-dire que tu regardes juste en termes de dollars. Et tu regardes le changement dans les prix, donc la proportion par laquelle les prix changent. OK? Là, donc celui de gauche, là, pour les auditeurs, c'est le niveau des prix. Donc, tu peux dire, si c'est à 100, c'est 100 $ mettons. OK? L'autre à côté, c'est le changement dans les prix à travers le temps. Donc, si tu passes d'une unité de temps de plus, de combien est-ce que le niveau des prix va changer? Puis là, tu peux diviser encore le truc en deux. Entre le choc permanent sur l'offre. Donc, disons qu'il y a quelque chose comme les chaînes d'approvisionnement deviennent juste de manière permanente moins bonnes. Donc, les biens prennent plus de temps à se rendre sur les marchés, il y a plus de délais, les inventaires sont moins bien gérés, l'économie est moins productive, peu importe la raison, il y a une guerre en Ukraine, quelque chose comme ça. Right? Bien, ce qui se passe, c'est que quand ça se passe, puis là, dans le graphique de gauche, le niveau des prix, quand le choc se produit, tu vas avoir une augmentation temporaire tu vas avoir une augmentation qui va être permanente sur les prix. Fait que là, tu vois que sur la ligne bleue, par exemple, il y a un jump. Mais après, une fois que le choc est fait et que tout le monde s'est ajusté,
ça arrête d'augmenter.
Il reste à un niveau plus élevé, mais qui arrête de changer. Mais exact. Pendant la période du choc, tu vas avoir un haut taux d'inflation, mais une fois que tu es arrivé au nouveau seuil, ça c'est le graphique de droite, tu vas avoir un pic d'inflation pendant une période, puis après tu vas juste revenir
pour exactement. Pour appliquer ça à l'Ukraine, dans ton exemple, tu fais une hypothèse très grossière, dans le sens que le choc est permanent sur les prix, la guerre en Ukraine. Parce qu'assez rapidement, c'est au niveau du pétrole puis du blé, par exemple, que les impacts sont plus grands. Si on prend juste le pétrole, tu dis « OK, il y a une guerre, un pays pétrolier avec la Russie, tout ça, le choc est définitif. Boum, on a vu le prix du baril monter à 120. Là, il est à 80 aujourd'hui. Pourquoi il est revenu à 80? Ben, la Russie, ils ont dit, vous ne voulez pas mon pétrole, je vais le vendre à quelqu'un d'autre, sacrifice.
Ou bien d'autres gens ont augmenté la production ailleurs.
Ben oui. Aussi.
En réponse
aussi,
à.
Aussi, ça, c'est l'autre effet, définitivement. Fait que tu es dans une position où est-ce que. Regardez les prix du baril avant la guerre en Ukraine, puis regardez les prix du baril aujourd'hui. Là.
La différence n'est pas gigantesque.
C'est pas mal fini, là, au niveau du prix du baril de pétrole. On est passé à autre chose. Maintenant, la guerre en Ukraine n'est plus un facteur tant que ça.
Oui, mais maintenant, la différence entre ces chocs-là, c'est qu'une fois que le choc est fait, le niveau des prix devrait juste rester à un niveau plus élevé s'il est permanent, right? Ouais. Okay, c'est un choc, il faut que ce soit un choc permanent. Puis il n'y a pas de manière de faire les ajustements qu'Yann dit. Avec ce que Yann dit, c'est que le prix rebaisserait un tout petit peu après, donc tu aurais un tout petit peu de déflation qui se produirait une fois que... Tu ne sais pas si tu reviens au niveau avant, tu peux avoir une petite baisse pendant un moment. La différence avec l'inflation, quand le gouvernement décide d'augmenter, chaque année, il décide d'imprimer 2% plus d'argent, l'effet que tu vas avoir, c'est que si tu ne changes rien à tout le reste de l'économie, tu vas avoir 2% d'inflation chaque année. Fait que le graphique de droite va te montrer une ligne que chaque année, le niveau des prix augmente de 2%. Ça a l'air d'être une flat line, mais si tu le ramènes au graphique de gauche, qui est le niveau des prix, bien, chaque année, le niveau des prix va augmenter de 2%. Fait que là, tu vas avoir une ligne
qui a l'air de la ligne choix, c'est le choix de la plupart des banques centrales. Je vais donner un petit tableau que j'ai trouvé ici. Nouvelle-Zélande, cible 0 à 3 % d'inflation depuis 89. Canada, 91, de 1 à 3 depuis 91. UK, on cible carrément 2,5 depuis 92. L'Australie, on cible de 2 à 3 depuis 93. C'est des gros pays, là. Tout le monde est un peu dans ces cibles d'inflation-là. Le ciblage de l'inflation, c'est quelque chose qui est très répandu sur la planète. Là.
Oh oui, mais l'idée ici, c'est que, écoute, ce qui est important, il y a une autre distinction qui n'est pas nécessaire à 100% pour les auditeurs de comprendre l'inflation, mais là, il y a un débat économiste sur c'est quoi la cible. Puis je te dirais que moi, je suis dans les radicaux là-dessus, que je pense que les banques centrales devraient avoir une cible de jamais être en haut de zéro.
Moi, je suis plus dans la gang du 1 à 3, personnellement.
Oui, mais tu sais, il y a des hypothèses, il y a des débats. Puis je serais prêt à changer ma position, puis je perds pas du sommeil à savoir que le gouvernement fait 1 à 3. Parce que les gros coûts... Attends, mais les gros coûts de l'inflation, là, le gros coût pour que les gens comprennent, si, mettons, le gouvernement a dit chaque année, ça va être 2% d'inflation, tout le monde peut ajuster les contrats, tout le monde peut ajuster leurs attentes, tant que c'est stable. Et puis pas trop élevé. Ouais. Par contre, si tu fais des ajustements, tu dis, chaque année, ça va passer. Une année, ça va être 10. L'autre année, ça va être moins 3. L'autre année... Non. Ce que tu veux, c'est des petits changements qui font en sorte que... Parce que le vrai coût, un des gros coûts de l'inflation, c'est ce qu'on appelle les menu costs. C'est-à-dire qu'il faut que j'ajuste mes prix. Puis ça me coûte de quoi changer le menu. Right? Réimprimer un nouveau menu sans un coût. Mais... Pour des firmes très complexes, ça peut avoir des coûts très élevés. Si tu fais de l'inflation à 2% par année, tu as peut-être besoin de changer tes prix, disons, aux 5 à 10 ans, disons, quelque chose comme ça. Tu peux avoir des contrats sur 5 à 6 ans, puis tu peux avoir des périodes où est-ce que tu fais pas trop d'ajustements. Si tu as 7% par année, mettons, même si c'est stable chaque année, ça veut dire qu'il faut que tu renégocies tes contrats à chaque année.
Les employeurs de PME, Vincent, ont augmenté leurs employés au mois de juillet cette année. Là. C'est d'habitude au mois de janvier. Là.
C'est coûteux de négocier un contrat. Là. Les gens ne comprennent pas ça, mais un contrat, c'est l'enfer à négocier. Je veux dire, le nombre de temps que même des PME passent à négocier un contrat avec un fournisseur, c'est pas des peanuts. Ou d'être le fournisseur de quelqu'un d'autre. C'est long, gérer des contrats. C'est coûteux. Ouais. Si tu dis que chaque année, il y a 7% d'inflation, ça veut dire que chaque année, tu dois renégocier des contrats ou tu dois changer tes prix ou tu dois inclure des schedules pour des prix sur plusieurs
années. Juste, Yann, avant que tu continues, vous posiez la question pour le baril là, de pétrole tout à l'heure. Officiellement, l'invasion de l'Ukraine, c'est en février l'année passée, mais on le savait au moins depuis un mois. Là,
décembre.
Ça se tramait. Ouais, décembre. Fait que si je vais... Dans le fond, là, début, si je vois dans le courant de décembre 2021, là, j'ai 80 et 20 le prix du baril. Puis là, en ce moment.
81 hier.
Ouais, là, j'ai. Ouais, c'est ça. Là, mes chiffres ne sont pas tout à fait à jour là, de ce que j'ai ici. Là, mais j'ai 85 dans le graphique que je suis en train de voir. T'sais, mais là, tu vois le pic là, qui est monté à 128 et 31 à un moment donné, le 8 mars.
Donc, le changement n'a pas été permanent dans le prix du pétrole.
Non, c'était un choc temporaire dans ce cas-ci. Mais écoute,
mais je te dirais, le monde là, dans lequel on vit au niveau des... C'est quand on est dans le réel avec les gens, les épargnants surtout. C'est mon monde à moi. Il y a des choses que tu veux éviter à tout prix. Présentement, le contexte actuel, tu le vois, les gens n'aiment pas ça. La population déteste ça. De l'inflation à 6 ou à 7 % là, c'est vraiment, vraiment quelque chose de chiant pour les gens. Mm-hmm. Fait que ça, c'est un monde dans lequel tu ne veux pas vivre. Fait que c'est sûr que la borne de ciblage à 3 % c'est parfait. Là, tu ne veux pas une borne à 10 % ensuite de ça, la déflation. Fait que le pire monde, c'est l'inflation. L'inflation en haut de 4 % moi, je dirais, c'est le pire monde dans lequel on veut vivre. Tu ne veux pas aller là.
Yep. En haut de 4 % est variable.
En plus. Définitivement. Ouais. Tu vois, dans le monde un peu de la déflation, mon guess, c'est pour les gens, il y a un inconfort. Tu sais, quand ton argent, mettons tu parles à un investisseur, quelqu'un qui a un projet, qui veut faire, développer une business ou qui veut construire une nouvelle bâtisse, peu importe, à toutes les fois qu'il retarde son projet, l'argent vaut plus dans ses mains. Tu sais, c'est comme quelque chose qui est défavorable, je trouve, pour l'investisseur, l'épargnant. Quand tu arrives dans une zone de 1 à 3%, les gens ont une récompense toujours au niveau de l'épargne. Ça donne un certain incitatif à faire l'épargne. Je vais donner un exemple. Présentement, là, pensons juste aux gens qui sont très défensifs dans leurs investissements. Donc, ils n'ont aucune tolérance au risque. Ils ne peuvent pas être sur le marché des actions, des choses comme ça. Peu importe la raison. L'âge, le projet, name it. Ouais. Quand tu arrives et tu es en 2019 ou 2020, ces gens-là, s'ils veulent s'acheter un compte de placement garanti à un an, ils vont obtenir à peu près 1 % de rendement. Dans un contexte que l'inflation est autour de 0,8 ou 1 %, ils ne s'appauvrissent pas. Là, mais les gens n'aimaient pas ça. Ils ont l'impression que leur argent ne sert à rien. Ils trouvent qu'ils perdent leur temps. Il y a plein de décisions un peu louches que ça les amène. Là, présentement, le contexte a changé. On s'entend, il y a beaucoup d'inflation. Tu peux avoir un CPG un an à 5,10 % présentement. Mais les gens sont contents. Ils disent, un épargnant, présentement, il est content. Puis, je dis, ouais, il y a quand même 6,7 % d'inflation. Là. Tu fais pas de l'argent pour vrai. Là.
Non, effectivement.
Tu n'es pas en train de faire de l'argent pour de vrai. En fait, tu faisais probablement plus d'argent que ton CPG à 0,8 % à l'époque, dans le temps qu'il n'y avait presque pas d'inflation.
C'est drôle que tu te dises ça parce que je peux-tu faire. Quand tu parles de ça, là, il y a un truc que certains économistes ont commencé à avancer que. J'avais jamais considéré avant, mais que l'augmentation des inégalités que tu remarques, c'est que quand tu as de l'inflation, ce que tu fais, c'est que tu es à toute fin pratique en train de redistribuer de l'épargnant vers l'emprunteur, parce que l'emprunteur, la valeur de sa dette diminue. Mais quand tu fais l'ajustement, ben c'est l'inverse. Donc, quand tu réduis l'inflation, ben la redistribution devient inverse. C'est de l'emprunteur vers le prêteur qui devient gagnant. Mmh. Mais la manière dont le choc s'est vu, c'est que les gens, quand tu as l'espèce d'idée de la courbe en U des inégalités, quand les gouvernements ont décidé d'imprimer beaucoup, 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 beaucoup d'argent pendant les années 50, 60, 70, l'effet, ça a eu que ça réduit les inégalités. Mais après, quand il y a eu à faire l'ajustement, ben, il y a eu à avoir une augmentation des inégalités, c'est-à-dire que ce qu'on observait sur la période, c'est que tu devrais prendre la moyenne des deux, puis ça aurait été le niveau que tu aurais eu historiquement si les banques centrales s'étaient comportées. Puis ça veut dire que tu n'as pas une grosse augmentation des inégalités depuis les années 80, tu as juste tu as juste une augmentation qui est causée par une baisse qui était insoutenable de long terme. Donc, tu n'as pas vraiment un âge d'or de l'égalité. Tu avais un buzz, tu étais sous pendant un bout, puis le lendemain de brosse,
c'est exactement ça.
Mais ce qui nous amène à une autre de mes quotes, on a parlé de Milton Friedman au début, mais une de ses quotes que j'aime le plus, c'est celle-là. Inflation is taxation without legislation.
Ben, en fait, souvent, en fait, des fois, ils vont passer des lois pour le permettre. Fait que des fois, c'est même avec législation, mais tu le dis pas exactement.
Ouais, c'est ça.
Honnêtement, les gens semblent avoir une préférence pour un contexte légèrement inflationniste.
C'est parce que ça fait 1000 ans que tu... Ben, 1000 ans, j'exagère le chiffre, là, mais ça fait longtemps que tu vis comme
c'est
ça.
C'est ancré dans les habitudes.
Je pense que les attentes des gens valent quelque chose. Mais par contre, là, je vais te faire une défense de la petite déflation, petite baisse constante du prix, là, donc disons 2% de moins par année. C'est parce que comme les firmes savent que leur productivité va augmenter parce que c'est eux qui contrôlent leur productivité, ils s'attendent aux baisses de prix. Donc, pour eux, c'est pas un choc. C'est pas un choc que la quantité de monnaie, que les prix baissent. C'est eux qui déterminent la capacité de baisser les prix dans ce cas-ci. C'est pas parce que c'est imposé par l'externe. Fait que c'est pour ça que tu as des longues périodes, disons 1870 à 1915, où chaque année, tu as 2% de moins par année de niveau des prix. La productivité augmente massivement à du 5-6% par année, ce qui est huge. Ben oui. Les gens n'apprécient pas. Le 5% par année, là, c'est ton revenu.
C'est composé, cette affaire-là. Là.
Oh oui, ton revenu, il double à peu près aux 15 ans.
Est-ce que ça veut dire, dans ce contexte-là, c'est que même si mon revenu ne change pas, je m'enrichis? Là.
Ben oui.
Oui, effectivement.
Concrètement, là, juste pour le résumer aux gens, là, pour leur vie.
Pensez aux images de l'époque. Pensez à Séraphin qui cachait ses shillings et ses pièces d'or dans son sac de blé.
Il y avait au moins 2% de rendement là-dessus.
Ben, le seul contexte dans lequel tu peux faire ça, c'est un contexte déflationniste. Puis regardez l'époque aussi que ça a été tourné, ces affaires-là. Là. Parce que dans un contexte où est-ce que de financiariser beaucoup l'économie, puis que le 1 à 3% est ciblé, ainsi de suite, c'est complètement stupide de garder de l'argent dans un bas de laine. Là. Il faut que tu fasses participer cet argent-là à l'économie. Tu dois la déposer à la banque pour avoir ton pourcentage d'intérêt pour amoindrir les problèmes causés par l'inflation. Tu dois la placer dans des titres financiers. Tu dois investir dans ton entreprise. Il y a toutes sortes de choses que tu peux faire, mais de l'argent qui n'est pas en mouvement, c'est une catastrophe. Tu es en train de t'appauvrir. Qu'est-ce qui permettait à Séraphin Poudrier à l'époque de faire ça puis que c'était une bonne stratégie financière? Il faut que tu aies une économie qui est en mode déflation pour faire ça, pour garder ton argent puis ainsi de suite. Tu sais, les gens, quand les premiers taux d'intérêt négatifs sont apparus en Europe, puis pas pour des petites durées, là, pour des longues durées, du 10 ans, une obligation allemande, 10 ans, était un temps, ça donnait moins 0,8%. Là, tu es là, tu disais un peu. J'achète une obligation allemande pour 100 000 $ puis mon rendement est négatif. Puis à la fin de tout ça, quand ils vont me donner mon 100 000, je vais avoir collecté tous les coupons, puis la face value à la fin, puis en bout de ligne, je vais avoir moins que 100 000 $. Voyons, c'est quoi la passe? Il n'y a personne qui veut acheter ça, mais pourtant, ils s'en vendaient quand même. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi les gens achetaient ça?
Ben, parce qu'ils avaient peur de perdre plus avec autre chose.
Ben, c'est que c'est dur à comprendre pour quelqu'un qui a juste 100 000 à placer. Mais mettez-vous dans la peau d'une institution financière, un assureur, par exemple, il y a 5 milliards de $ à placer dans des obligations défensives parce que, de par sa charte, il est obligé d'être dans des produits d'investissement défensifs. Ouais. Est-ce qu'il va prendre le 5 milliards de $ puis il va construire un coffre-fort gigantesque pour mettre ses pièces et ses billets à l'intérieur du coffre? Puis il va payer les agents de sécurité qui viennent avec ça, puis tout ça, le système de protection de cet argent-là, il ne voudra pas faire ça. C'est beaucoup plus facile dans une économie financiarisée d'acheter un titre, même si ce titre-là te donne un rendement négatif, c'est moins cher pour toi d'avoir un rendement négatif que d'engager des agents de sécurité puis de faire une voûte pour déposer ton 5 milliards à l'intérieur. Fait que c'est la raison pourquoi les taux d'intérêt négatifs sont apparus et étaient supportés par l'économie. Tu n'aurais pas pu te prendre à moins 10 % ou tout ça, parce que là, tu aurais dit, ben, Christy, m'a le construire, le coffre-fort.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est vraiment ça. Puis ça, ça a été un bout. Quand c'est arrivé, c'est apparu en Europe, ces taux d'intérêt négatifs-là, c'est un bout qui a été difficile à comprendre beaucoup par les gens. Mais pensez, même de votre côté, si vous aviez eu 100 000 $ ou 100 000 euros, est-ce que vous auriez vraiment voulu le mettre en dessous de votre matelas? Je veux dire, c'est un risque, là, tu ne veux pas te le faire voler. Fait que tu préfères l'avoir à la banque dans des produits qui perdent de l'argent un petit peu parce que c'est moins payé. Mais dans un contexte de toute façon que tu as très peu d'inflation ou que tu as une déflation même parce qu'il y a eu des petits bouts de déflation en Europe, mais c'est pas la fin du monde d'avoir des taux d'intérêt négatifs. C'est vrai. Mais est-ce que les gens aimaient ça? Est-ce qu'on avait l'impression que notre système financier fonctionnait bien? La réponse est non, là.
Non, écoute, je te dirais que depuis 2008, l'incertitude entre les économistes monétaires est assez élevée. Moi, je me souviens que quand j'ai commencé, puis quand je regarde des débats, disons, des années 90, il y a l'air d'avoir énormément de certitudes entre les macroéconomistes, du moins relativement à aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a l'air d'avoir... Je vois beaucoup plus d'articles de gens qui sont... Le meilleur exemple, c'est Guillermo Calvo, qui est un... de la notoriété des Calvo Fairies, parce qu'il a créé un modèle dans lequel il y a une petite fée magique qui intervient pour laisser les prix changer une fois sur cinq. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans le vrai monde, là.
C'est un modèle.
Mais c'est un modèle qui permet de... parce pour avoir de l'attraction mathématique, c'est comme un raccourci, mais les gens font des jokes là-dessus avec le Calvo Fairy. Mais Calvo est connu comme un des grands macroéconomistes qui est pas mal le mainstream. Depuis quelques années, lui-même, il dit, je suis même plus sûr de ce que je dis. Il dit peut-être qu'on devrait retourner à des économistes beaucoup plus classiques du 18e, du 19e siècle. Peut-être qu'on devrait relire Mises, ça m'a vraiment surpris quand il dit ça. On devrait relire Hayek. Il y a quelque chose dans l'ancien système monétaire. Donc, tu as des économistes qui étaient vraiment là, dans la norme des banques centrales, mettons, qui maintenant sont même plus sûrs de si on devrait avoir des banques centrales. J'aurais jamais pensé voir cette conversation-là. Je pense pas que Calvo il dit exactement ça, mais que tu as une sorte d'incertitude qui émerge. Puis je pense que la crise de 2008 est un des facteurs de ça. La pandémie a non plus pas aidé parce que tu as tellement eu de variables qui ont bougé en même temps qu'on est même plus sûr à 100% qu'est-ce qui est quoi là, en termes de les origines, les causes du changement, la manière d'analyser. Puis il y a tous les désaccords sur les méthodologies qu'on utilise. La macro, je te dirais que présentement, c'est le domaine le plus divisif dans la profession.
Ben, c'est la raison pourquoi on a autant de pression des auditeurs pour en parler. Parce que c'est hallucinant la quantité de questions. À toutes les lives du mercredi soir qu'on a, c'est toujours il y a toujours une à deux questions sur l'inflation. Les gens essaient de s'outiller pour comprendre, ça touche leur vie. Là. Les gens ne sont plus habitués de voir des prix monter aussi rapidement que ça. Fait que c'est des habitudes peut-être à reprendre. Même au niveau
tu commences à avoir des habitudes chez les gens, Yann, d'accumuler. Là.
Ben oui.
C'était pas quelque chose. Tu sais, dans un contexte où tu n'as pas d'inflation, là, ça sert à quoi d'acheter 19 livres de beurre et les mettre dans ton congélateur? Mais là,
absolument rien.
Ça sert absolument à rien parce que là, dans le fond, tu amènes l'entrepôt chez vous. Fait que, en gros, c'est une perte d'espace, une perte d'énergie.
Et ça met de la pression sur les chaînes de montage, les chaînes d'approvisionnement.
Exactement. Sauf que là, on est dans une position où les gens vivent de l'inflation, puis ça se matérialise entre autres à l'épicerie pour eux autres, dans leur vie de tous les jours. Fait que là, il y a un rabais sur quelque chose. Fait que là, ils achètent 19 bas de palette de rôti de bas de palette. Ils sacquent dans le congélateur. Puis là, ils se disent, en tout cas, je suis padé pour les 5-6 prochains mois pour ce produit-là.
Oui, puis tu sais, ça monte aussi que la journée que le monde va avoir transféré l'entrepôt au complet chez eux puis qu'ils n'auront plus de place, tu vas être dans une situation où est-ce que là, soudainement, ils vont acheter moins à l'épicerie, ça va enlever de la pression un peu puis tu vas revoir des prix baisser à l'épicerie. Ça, c'est la différence entre l'inflation et le choc des prix. Fait que tu sais, les gens sous-estiment beaucoup tous les ajustements puis comment c'est pénible s'ajuster. Pis je pense que c'est la raison. Quand tu arrives et quand tu parles à des économistes qui sont plus en faveur de la stratégie de ciblage d'inflation des banques centrales entre 1 et 3 % par exemple, et ceux-là qui disent « Non, on devrait juste laisser aller, puis s'il y a de la déflation, il y en aura, puis c'est pas pire que ça », ils vont tous les deux s'entendre, ces types d'économistes-là, à mon avis, sur une chose. La chose la plus importante, c'est la stabilité. La stabilité dans les attentes des gens.
Ouais.
Parce que quand ces attentes-là sont bousculées, ça amène des changements d'habitude, des changements de comportement importants, ça amplifie des chocs. Puis, il n'y a personne qui a du fun dans ces situations-là. Les gens vont préférer une stabilité à des chocs en permanence. C'est des bons moments pour s'enrichir, les chocs. Les gens qui sont prêts à subir ces chocs-là, qui étaient... présentement, les gens qui s'étaient désendettés beaucoup avant de rentrer dans cette période d'inflation-là, qui n'étaient pas à pression avec leur prêt hypothécaire ou leur prêt personnel, ils vont s'enrichir. Dans les périodes inflationnistes, l'écart entre les riches et les pauvres, généralement, il s'agrandit.
Ouais, c'est
pas pour rien, là.
Exactement. Écoute, vu qu'on est un petit peu plus pressé dans le temps ce matin, là, puis qu'on voulait parler d'un autre sujet, on va aller plus tôt, un petit peu plus tôt sur Patreon pour avoir le temps d'en discuter un peu. Fait que si vous voulez vous joindre à nous, là, le lien est dans la description du podcast. Puis
si vous voulez, vous devriez.
C'est ça, vous devriez. On vous oblige. Fait que.
Ben, honnêtement, comme le gouvernement, on dit, comme ils disent, non, on vous suggère fortement de nous écouter.
C'est ça.
Il y a assez de qualité de contenu pour justifier 3$ par mois, honnêtement, je pense, sur Patreon. C'est pas énervant pantoute, là.